Merci, l'église MLK de Nîmes va-t-elle bien ce matin? Bon, je suis très heureux d'être dans le soleil, hein, ça me change. Vous avez pensé à moi, ça me change de Paris, je me sens vraiment bien chez vous, il pleut pas quoi. Je dis, au moins vous pourrez attester que je ne suis pas venu ici par intérêt. Parce que choisir Nîmes pour un deuxième dimanche de janvier, il faut vraiment être bête ou faut être... Mais je suis heureux d'être là et franchement, bon Pascal, tu as dit beaucoup de choses, certaines sont vraies, il y a beaucoup d'exagérations peut-être aussi. Mais il y a quelque chose que je voudrais juste, ça va être assez transparent comme message ce matin, je ne suis pas venu du tout pour vous faire la leçon, au contraire. Effectivement, il y a une dizaine d'années, on a démarré une église avec une quinzaine de personnes et aujourd'hui on est un peu plus que 1200. Ce matin, il y aura plus de 1200 personnes dans l'église à MLK, là-haut dans le nord, donc MLK Sud c'est vous, MLK Nord c'est nous, et ça fait beaucoup de monde dans les églises MLK en France aujourd'hui, hein, ça fait plus de 1500, et c'est super de voir ça, et pourtant c'était pas gagné, parce que donc je viens, et puis certains me connaissent d'une des églises les plus intégristes de France, et quand je dis intégriste, c'est vraiment intégriste, un peu de type Amish, évangélique tout en étant charismatique, bref un mélange un peu bizarre, très pyramidal, très autoritaire avec beaucoup de règles, de il faut et il faut pas, et Dieu a vraiment changé mon cœur, vous allez voir au travers de ce message c'est vraiment un message de ma vie, de comment Dieu m'a changé ma façon de voir qui il est. Mais je vais commencer par une petite question. Parce que je crois que vous êtes un petit peu en occitan ici, non? La langue, je ne sais pas s'il y a quelques anciens qui maîtrisent encore l'occitan. Alors moi, je suis plus à l'aise en anglais qu'en occitan, mais comment on dit le chemin de la loi de Dieu en occitan? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ça en occitan? Le chemin de la loi de Dieu. Alors plus fort, faut que tu te lèves mon frère, il y a un ancien qui prend le risque de se tromper, vas-y fort. Alors occitan ce matin à Nîmes. T'es dit où? Esaco, apparemment ça veut dire je suis d'accord, ben là, j'ai eu l'interprétation de ton parler en langue là, tu vois c'est incroyable. Hein. C'est proche de l'espagnol chez vous, hein? Camino, ley de Dios, en anglais the way... Love God, en français le chemin qui par la loi de Dieu. En arabe, vous savez comment ça se dit? C'est beau quand même le chemin de la loi de Dieu, c'est beau, le chemin de la loi de Dieu. Et en arabe, ça donne quoi? Ça donne charia, mes amis. Ça donne charia. Alors juste un petit silence dans la salle, parce que du coup vous êtes un peu gênés. Zut et tout, il y en a qui disent Alléluia! Charia. Charia en arabe, c'est le chemin par la loi de Dieu. Ah, c'est intéressant parce que ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, ça veut dire qu'en fait, entre un évangélique bien étroit comme il faut et un musulman bien Daesh comme il faut, ils sont tous les deux d'accord que le chemin qui mène à Dieu, c'est le chemin de la loi. Et moi, j'étais un petit Daesh évangélique. Je suis né dans une famille où on m'a dit, numéro un, la sanctification. Sans elle, personne ne verra Dieu, ce qui est vrai, mais ce qui est un petit peu tiré du contexte. Vous savez que vous prenez la Bible, vous prenez un verset, vous pouvez tout dire avec. Et en fait, le problème, c'est que la sanctification, on m'a appris que c'était par le respect de nombreuses règles. Alors ça allait dans, je ne sais pas s'il y a certains qui sont un peu plus anciens, ni mais considéré ici, au tout moins le centre MLK, comme une église qui a toujours été remplie de grâce et assez d'ouverture. Mais je pense que vous êtes entouré dans le Gard d'autres églises. Le dimanche matin, je viens de Bretagne, il y avait des églises dans lesquelles on vous donnait un foulard, mesdames, pour pouvoir avoir le droit de rentrer dans la salle. On regardait si votre cheveu était coloré ou non. Moi, à 6 ans, il y a une petite fille qui, je me rappelle encore, c'était ma voisine. Elle était venue visiter ses cousins. Et donc, elle était ma voisine d'un jour. Elle est arrivée avec une boucle d'oreille à 6 ans. Et comme j'étais un vrai, vrai chrétien, quoi, un bon, je suis allé la voir et j'ai dit, tu sais, tu vas en enfer. Elle m'a regardé, elle était un peu choquée. J'ai dit donc, j'ai dit, ouais, tu vas en enfer. Parce qu'il est marqué, tu ne porteras pas de bijoux. Et tu portes un bijou. Donc, tu as deux solutions. C'était une de mes premières prédications. C'était un peu raide. un peu raide. Puis elle a gardé son bijou, alors je lui ai dit, ben, ça va brûler, quoi. C'était très dur. Et il y a quelques temps de cela, lorsque je prêchais ce message, c'était dans une réunion de jeunesse, parce que des fois, c'est les jeunes les plus durs. Et je parlais de ça, et au moment où je parlais de ça, il était 22h30, à la fin du message, je me rappelle encore, mon téléphone portable sonne, et on dit, des terroristes viennent d'attaquer le Bataclan. Et c'est drôle parce que, en fait, c'était prévisible. Et encore une fois, je vous choque un peu, mais il y a un point commun entre beaucoup d'églises évangéliques et ceux qui ont fait le Bataclan, c'est ça. Et ça se passe en Libye. C'était 2 ans avant le Bataclan. C'est une photo de djihadistes qui, pour faire plaisir à Dieu, brûlent des batteries, instruments du diable, contraires à la charia, contraires à la loi de Dieu, selon ce qu'ils interprètent de la loi de Dieu, et ils les brûlent, et plus ça brûle, et plus la sanctification djihadiste rentre dans leur mentalité. Et donc, ça, moi, je l'ai un petit peu vécu, hein. Il y a des églises dans lesquelles il ne fallait pas bon être musicien. Bon, ici, c'est la fête, hein, par contre, hein. Vous êtes très libre, hein. Je me demande si ma prédication est vraiment adaptable ici, mais en gros, il y a quelques années, vous ne m'auriez pas invité, parce que j'étais persuadé que le rock, c'est épouvantable. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des rassemblements de jeunesse qui s'appelaient le CIGEM, et il y avait dans ce CIGEM un pasteur qui venait du Canada, c'est la première fois que je le voyais, il s'appelait Marc Lecomte, il venait avec Stéphane Kerry, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et en première partie, il y avait un allumé, un dingue, un fou, un gars qui se disait chrétien, qui s'appelait Manu Bolomik, et qui faisait quelque chose qui ne peut pas exister, parce que ça ne va pas ensemble, du rap chrétien. Et du coup... Bon, je l'ai regardé, j'ai écouté, et je bouillais sur ma chaise. Parce que j'avais 20 ans, et parce que je voyais un gars qui disait « Jésus est fantastique !» Et puis il hurlait ça là-dedans. Je lui disais « J'aimerais bien voir ta sanctification personnelle, mon gars. » Et je pensais vraiment que je faisais plaisir à Dieu. Donc je suis sorti, c'était une salle comme celle-ci. Je suis sorti, j'étais tellement pas bien que je suis sorti. Et il y a un pasteur de Périgueux, je me rappelle encore, qui m'a vu sortir, et m'a vu sortir fâché. Ça va un peu comme Cain était fâché à un moment. Et je suis sorti fâché, et le pasteur de Périgueux, il m'a suivi, et il m'a dit, qu'est-ce qui ne te va pas ? Je dis, vous cautionnez tous ce truc-là. On est en train de louer Dieu, et l'autre, il fait du rap, et le rap, ce n'est pas chrétien. Donc, ce que vous cautionnez, vous n'êtes pas des pasteurs, vous êtes des mous. Et il m'a dit, au lieu de me rentrer dedans, il aurait eu le droit, hein. Il a été patient, il m'a écouté jusqu'au bout, parce que j'avais besoin de parler. Et il me dit, c'est incroyable comment t'aimes les gens, toi. Ça m'a fait réfléchir. Et vous avez une phrase de Jésus qui dit, ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ces innocents. Et alors là, je pense que si les églises évangéliques aussi sont dans l'état qu'elles sont en France, c'est-à-dire un peu décevant, il y a beaucoup de sacrifices qu'on a faits en pensant les faire pour Dieu, et on a perdu beaucoup, beaucoup de monde. Dès qu'ils ne rentraient pas dans le cadre théologique, alors après, on pensait bien faire. Je pensais bien faire. On lira ensemble dans le livre de la Genèse au chapitre 4. Ça commence très vite. Vous savez, c'est génial parce que la Bible, la parole de Dieu, elle est incroyablement inspirée. Quand vous lisez le tout début de la Genèse, vous comprenez au travers d'une histoire de Cain et Abel, tout le monde connaît l'histoire de Cain et Abel, vous avez une préfiguration du choc entre l'Ancien Testament qui est venu en premier, Cain, et le Nouveau Testament avec Abel. Et ça va mal se passer. Et c'est une préfiguration de ce qui va se passer, le choc entre les pharisiens, les fils d'Abraham et Jésus. Et ça va finir comme vous le savez. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Cain. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit au monde le frère de Cain, Abel, ensuite. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta les produits de la terre en offrande à l'Éternel. Et Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau. Il offrit les meilleurs morceaux. C'est là que ça se gâte. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn se mit dans une grande colère, son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il si sombre ? Si tu agis bien, tu te relèveras, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi maîtrise-le. » Mais Caïn dit à son frère, « Allons au champ. » Le thème de ce matin, c'est la grâce assassinée. La grâce assassinée. Pour ceux qui prennent des notes, on va voir, il y aura deux parties dans le message de ce matin. La première partie, c'est la cohabitation dans une même famille, dans une même famille d'église ou dans une même famille tout court, de la grâce et de la loi. J'espère que pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup la Bible, accrochez-vous ce matin, je vais essayer d'être le plus clair possible pour tous qui sont des anciens. Là, on est quand même dans les Cévennes, là, vous avez une bonne culture biblique, je n'ai pas besoin de vous expliquer trop ce que c'est la grâce et la loi. En quelques mots, la grâce, c'est le fait de dire « tout ce que j'ai, c'est une grâce de Dieu ». Il n'y a aucun mérite là-dedans. Et la loi, c'est de dire « les deux aiment Dieu hein, », mais la loi, c'est de dire « je vais faire tous mes efforts pour plaire à Dieu. » Il y en a un qui dit « Dieu m'aime alors que j'ai rien fait, c'est juste incroyable. » Ça, c'est la grâce. La loi dit « je veux être aimé par Dieu, donc je vais faire des efforts. » Les deux sont bien. Dieu, c'est pour ça qu'il y a eu quand même un Ancien et un Nouveau Testament. Oh, j'essaie de ne pas trop vous perdre. Grand 1, la cohabitation. Et la deuxième partie, ça sera l'affrontement en fait. Entre la loi et la grâce. Alors, on lit ensemble dans ce livre de la Genèse. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Et elle dit, avec l'aide de l'Éternel. La loi n'est pas quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Les djihadistes aiment plus Dieu que vous. Vous priez combien de temps par jour, vous? Vous les faites les 5 fois la prière, là? Que Dieu te bénisse. Il y a quelques Caïn parmi nous, mais en mieux. Mais 5 fois la prière aussi bien qu'ils le font, bravo. Maintenant, l'essentielle majorité, on va retenir un oui, on entend le silence des 299 non. Et c'est toujours comme ça dans une famille. Il y a quelqu'un qui assume et il y a beaucoup d'autres qui n'assument pas. Ça, c'est dans toutes les familles de France, c'est tous pareil, du monde entier. Et elle dit, j'ai formé avec l'aide de l'Éternel Caïn. Caïn en hébreu, c'est j'ai formé. J'ai formé. Elle a sorti de ses tripes. Je suis heureux de ne pas être une femme. Il n'y a qu'une femme qui peut comprendre ça. Tu mets 9 mois et quand tu sors le bébé, là, imaginez Ève, on ne lui avait jamais fait de cours d'accouchement. Parce qu'il n'y en avait pas avant. Il n'y avait pas une sage-femme à côté. Adam devait être complètement largué. Déjà, les hommes, ils sont largués en temps de base, en sachant ce qui se passe. Mais alors là, il n'a rien vu arriver. Il y a Ève qui a un ventre énorme. Et tout d'un coup, en poussant, on dit « Bah, Caïn !» Purée, celui-là, je l'ai sorti. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle voit le petit gars qui sort. Elle voit le petit Kiki. Elle dit « Il ressemble plus à papa qu'à maman. » Elle dit, voilà, j'ai formé un homme. Et c'est très intéressant spirituellement ce que ça veut dire. Parce que, en fait, la loi, Caïn représente la loi, l'Ancien Testament, elle ne lui donne pas un nom pour rien. Elle ne lui donne pas un nom pour rien et je pense qu'elle lui donne ce nom parce qu'elle dit, là, j'ai fait un petit gars. Et elle est fière de ce qu'elle a fait. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous faites? C'est bien et c'est pas bien. Mais c'est très bien et c'est... Il y a tout là-dedans. Mais des fois, on est très fiers de ce qu'on fait pour Dieu. Très fiers de nos réalisations. Quand je vous dis, moi j'étais super orgueilleux de ce que ma vie est une vraie pendule, une horloge suisse par rapport à la sanctification. Pendant des années, j'ai tellement été fier d'être un pur produit de la sanctification intégriste. Et ça vous donne des forces incroyables. Je me rappelle en cours de récré, lorsque j'étais en quatrième, j'étais vraiment dans une communauté, je vous dis, on était bien remontés comme il fallait. Mais on était quand même dans un collège public. Et dans un collège public en Centre-Bretagne, ils ne sont pas chrétiens du tout. Et dans ce collège, en fait, j'étais réputé pour être celui qui ne dit pas de gros mots. Et je me rappelle encore cette scène en quatrième où il y a 15 gars et filles qui se mettent autour de moi et qui commencent à faire « Il va dire un gros mot, il va dire un gros mot. » Et ils se rapprochent, truc de fou quand même. J'ai dit « Jamais. Canard, moi j'ai formé avec l'Éternel une résolution, le gros mot vous l'aurez jamais. » Et j'ai pas craqué, au bout d'un moment ils ont lâché l'affaire. J'étais un héros, mes amis. J'étais orgueilleux, mais j'étais un héros. Et quelques minutes après, j'ai Sébastien, mon copain, qui était dans la même église que moi. Je le vois qui vient à la récré d'après, à moitié en tremblant, une petite larme dans l'œil. Il me dit, Yvan, j'ai craqué. Ça m'a donné deux fois plus de fierté en comparaison à l'autre, qui était un loser. Quand Ève a donné ce nom Cana à son fils, elle a en tête un autre loser, qui est un homme, et avec qui elle est mariée, sans vraiment l'avoir choisi parce que c'était le seul disponible à l'époque, qui s'appelle Adam. Et là, je pense que ça va parler à des femmes. Là. Vous savez que tous les djihadistes ont une maman. Et avant de parler des défauts des hommes, je vais mettre peut-être un coin que tu ne vois pas. Je sais qu'ici, il y a des mamans courage. Vrai ou pas vrai? Oh, il y en a ici! Est-ce qu'il y a des femmes qui sont méritantes, qui ont peut-être élevé seules des enfants? Il y a peut-être des personnes qui ont eu, malgré des accidents de vie, t'es inébranlable. Par la pluie, dans la sécheresse, dans le vent, t'es un roc. T'es un roc. Il y a des femmes comme ça. Et je pense que Ève est ce genre de femme. Et quand elle a sorti de son ventre le canal, elle s'est dit, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et elle dit, j'ai un homme. Et un homme. C'est qui avec qui je suis marié? Je suis marié avec un homme. Mais cet homme avec qui je suis marié, le Adam là, il ne m'a pas protégé. Son boulot, il n'en avait qu'un seul. C'était d'être le gardien du jardin. J'avais un homme qui a été censé avoir du leadership. Toutes les femmes ici, même celles qui sont femmes chefs aujourd'hui, à la base, elles auraient rêvé d'avoir un mari qui assure et qui les protège. Toute femme a besoin d'avoir quelqu'un. C'est pas pour rien que Walt Disney fait des chevaliers dans tous ses dessins animés. Parce qu'il y a dans le cœur des femmes l'idée de dire, si j'ai quelqu'un qui me protège, qui me rassure, c'est bon pour ma vie. Et en fait, c'est une tristesse pour Ève de dire, mon mari, au moment où j'étais vulnérable, il était censé me garder de cet arbre, mais il était toujours en retard, et ce jour-là, il a encore été en retard, et du coup, il n'a tellement pas assumé. Mon mari n'a tellement pas assumé que quand j'ai été pris en flag sur la bêtise de ma vie par rapport à ce fruit, et que Dieu a posé la question à mon mari, « As-tu mangé du fruit ?» Il m'a rebalancé. Je suis marié avec un loser. Sa première réaction de mon mari, c'est pas ma faute, c'est elle à côté. Elle dit, mais j'ai pas un homme, j'ai un bébé. Je suis marié avec un bébé qui se défausse de sa responsabilité. Quand un homme n'assure pas, la femme prend une place qu'elle ne devrait pas prendre. Et les deux sont à côté. Il n'y a pas un qui a plus tort que l'autre. Les deux, bon, il faut que j'arrête parce que c'est encore un autre message. Mais vous comprenez l'idée ? Il y a un problème d'autorité, de leadership là-dedans. Quand l'homme est dysfonctionnel, la femme est dysfonctionnelle, les deux sont dysfonctionnels. Et les grands perdants, ce sont les deux et surtout les enfants. Et là, on a un problème parce qu'elle n'est pas fière de l'homme avec lequel elle vit. Et ça, c'est un vrai souci. Et quand elle dit « j'ai formé un homme », c'est quelque part une revanche sur la vie. Je suis d'une famille dans laquelle ma grand-mère venait d'une église baptiste, stricte mais solide, avec le pasteur Somerville à Morlaix, et une grande famille baptiste. Et quand elle était, vous savez, c'est un petit village, Morlaix en Bretagne, c'est pas une grande ville, du genre l'église, ils sont 20 le dimanche, quoi. Et quand t'es une jeune fille, que t'es belle comme ma grand-mère, que t'es pétillante, qu'elle était rigolote, elle était vraiment douée, elle était première à l'école d'infirmière, elle était montée à Paris, au diaconesse de Reuilly, je sais pas si ça parle à certains. Et ma grand-mère, elle était, waouh, c'était vraiment la fille de la paroisse, quoi. Et son pasteur, Somerville, était venu la prendre par la main et dit, Françoise, le gars que t'es en train de regarder là, je pense qu'il n'est pas fait pour toi. Il n'a pas Dieu dans sa vie. Françoise, si tu fais ce choix, tu te marieras pour ton malheur. Ils étaient carrés, les pasteurs à l'ancienne. Et le pire, c'est que c'est devenu une réalité. Alors, il y a eu des moments de bonheur aussi, mais son mari a eu des gros soucis. C'était mon papy. C'était un homme qui était capable d'être extraordinaire de temps en temps, mais qui aimait un peu trop la boisson et qui, de temps en temps, aimait un peu trop la bagarre. Et ça laisse un peu des traces. Et du coup, quand ma grand-mère a donné naissance à ses enfants, elle a eu sa fille, ma mère, à qui elle a dit « Ne refais jamais la bêtise que j'ai faite. Tu te maries avec qui tu veux, mais tu ne me ramènes jamais un inconverti à la maison. Parce que je t'interdis de faire la bêtise que j'ai faite. » Et en fait, chaque génération produit des canas où on dit « voici les règles que l'on met en place ». Ce que je voudrais vous dire, c'est que la loi, elle vient en opposition à du ratage, à du laxisme. Dans beaucoup d'églises, on a mis en place des règles suite à des abus. Et on s'est dit, les règles plaisent à Dieu, donc par nos propres règles, nous allons corriger le système. Et quand elle crée Cain, elle dit, je vais avoir enfin un homme qui va corriger le système, parce que le loser qui nous a fait perdre notre appartement, qui nous a fait perdre notre super jardin, à cause de lui, on est en train de galérer maintenant, en dehors du jardin. Et ce jeune gars, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, tu vas devoir compenser l'erreur de papa, parce que depuis qu'on s'est fait virer du jardin, maintenant la terre, vous connaissez ce terme-là? La terre ne produit plus comme elle doit produire. Et donc, en fait, Ève, quand elle nomme Cana, elle dit, je vais faire un homme et je vais en faire un cultivateur. Je vais faire quelqu'un qui, par ses efforts, va contrecarrer la bêtise du passé. Ça vous parle ou pas? Et quand Caïn, il va devoir être avec la terre, un autre mot en hébreu, c'est laboureur, cultivateur. Il va devoir, imaginez, vous n'avez pas d'outils. Allez dans les Cévennes faire un champ sans outils. C'est ce qui s'est passé avec Caïn. C'est épuisant, c'est par tes efforts que tu fais tout pousser. Et si tu travailles dur, 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 alors tu produiras quelque chose. Et c'est ça la loi. Et c'est ça qu'on a beaucoup enseigné dans les églises, et c'est ça qu'on a beaucoup enseigné dans les familles. C'est pas mauvais, mais c'est juste un système où l'effort humain détermine tout ce que tu vas récolter plus tard. Et alors à côté là, ah, je voudrais juste dire une chose. La loi, ça parle plus aux hommes qu'aux femmes. Il y a plus de djihadistes masculins que féminins. Il y a quand même des femmes qui sont parties en Syrie, mais l'essentiel, ce sont des hommes. Parce qu'il y a, chez le mâle, quelque chose de dire, je vais y aller. Ils sont complètement illuminés. Hein. Ils y vont en disant, on va conquérir la ville en 3 jours. Finalement, ils mettent 3 ans, toute la famille meurt. Mais dans leur tête, par leur propre force, ils vont... Vous comprenez, il y a quelque chose dans le cœur du gars qui fait que quand c'est carré et que c'est costaud, il s'accroche. Vous avez un danger ici. Cette église n'est pas super adaptée aux gars. Désolé, Pascal. Vous êtes une église très artistique, avec une grande liberté, qui n'est pas militaire. Or, à l'armée, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, en fait, dans toutes les églises, il y a des forces et des faiblesses. Et c'est pour ça que certaines églises très légalistes, très dures, gardent bien leurs gars. Non, vous êtes toujours là ou pas? Moi, je suis rendu compte, nous, on a une grande communauté antillaise, en Ile-de-France. Et on s'est rendu compte que notamment les adventistes du septième jour, vous savez, c'est hyper carré, ils arrivent à maintenir les gars par une forme de castration spirituelle, parce que les Antilles, c'est très chaud, et il y a plein de familles explosées. Et donc, quand vous êtes dans une famille adventiste aux Antilles, on vous dit, si vous êtes un petit gars, là, tu trompes ta femme, là, t'es mort. Et bien, du coup, il y a beaucoup de gars qui sont très fiers de se comporter avec beaucoup d'orgueil et de force, et ça les protège. Moi, ça m'a protégé aussi. Moi, quand ma maman m'a dit, écoute bien, Yvan, hein, si un jour, tu nous ramènes une inconvertie à la maison, comme avait fait mémé, t'es mort. Enfin, on te tuera avec amour, mais tu mourras quand même. Et c'était très bien intégré. Et ça m'a protégé. Parce que ça a créé de moi un intégriste solide, au collège, au lycée. Très vite, ils ont compris, ils m'ont appelé le curé. C'est vrai, en plus. S'il me dit, parce qu'en fait, moi, j'ai dit, comme je ne peux pas sortir, il n'y a que des inconvertis dans le truc, là. Donc du coup, je ne peux pas sortir avec une fille. Ce n'est pas le désir qui manquait. Hein. Je tombais amoureux très régulièrement. Et c'était que des histoires qui ne pouvaient pas avoir de lendemain, parce que Cana en moi disait, tu ne peux pas faire ça. Et d'un autre côté, j'étais très orgueilleux, positif, négatif, et côté positif, ça m'a protégé. Parce que du coup, ça m'a créé plein de barrières, plein de principes de tu fréquentes pas une fille, tu vas même pas accepter le petit cinéma, même pas un petit cinéma de rien du tout, entre amis, rien du tout. Et du coup, ça m'a protégé. Et puis là, voilà le Abel. Alors le Abel, le temps passe, hein, oui, ça passe vite ici. Hein. Abel, il y a des Abel ici. Déjà le nom, là, Abel, alors ça que c'est cool, quoi. Là, le gars, c'est sûr, il est à la louange et il est à MLK, quoi. Ça, c'est sûr, excusez-moi s'il y en a un. Vous entendez déjà le vibrato dans la voix, quoi. Abel, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, lui? Le grand frère, il est cultivateur, il bosse. Mais le Abel, il est berger. Berger. T'as déjà fabriqué une brebis, toi? Vous savez, les brebis, elles se fabriquent toutes seules. Tu mets un mâle, tu mets une femelle et tu attends. Et au bout d'un certain temps, tu viens de multiplier par 10 ton troupeau sans avoir rien à faire. Si. La seule chose que la grâce te demande de faire, c'est d'aimer tes brebis. Un bon berger aime ses brebis. C'est la seule chose qu'on lui demande. Un bon berger protège le troupeau dans son ensemble de l'extérieur, mais à part de la protection et de l'amour, un bon berger, il passe beaucoup de temps à sculpter des bâtons sur son rocher dans les Cévennes. Donc, c'est pas le job le plus épuisant du monde en termes de pression et de stress. Vous êtes d'accord avec moi? En termes de... Un berger... Je suis quand même en danger. Je suis dans le domaine de ces... Peut-être. Bon, il y a des bergers qui en font plus que la moyenne, voilà. Mais entre berger et laboureur dans les Cévennes, je choisis berger à titre personnel. Et c'est quelque chose qui fait que... En plus, vous voyez la gloire de Dieu. Le berger, il contemple Dieu à l'œuvre. Le berger, il se dit, mais Seigneur, il n'y a aucune de ces brebis que j'ai plantées. Et l'Éternel, chaque matin, multiplie et pourvoit. Moi, je les aime, je les conduis dans les endroits à protéger. Et Dieu, de par sa grâce, multiplie. Et voilà pourquoi on arrive au point où... Ah là là, bon ça j'ai fait, j'accélère, voilà. Là, je ne vais pas aller aux Galates, mais vous connaissez bien les Galates. Il dit attention à la loi, hein. Je vais un petit peu plus vite. Voilà pourquoi on passe à une deuxième partie, l'agression. Il y a un moment où la loi va agresser la grâce, va la tuer. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau, en offrit les meilleurs morceaux. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et là, tout part en vrille. Pourquoi tout part en vrille? Parce que Caïn est d'accord de bosser pour avoir du résultat. Et tant que tu travailles et qu'il y a du résultat, la loi, ça marche. Cohabitation, d'un autre côté, la grâce, ça marche. Les deux marchent, les deux églises marchent. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on arrive au moment de l'offrande, qu'on vient pour donner à l'Éternel la reconnaissance, il y a deux façons d'apporter à l'Éternel. Et pendant des années, je me suis dit, qu'est-ce que Dieu nous a fait là? C'est l'injustice de Dieu qui a mis le bazar. Non? Vous n'osez pas parce que c'est la Bible, c'est ça? Vous n'osez pas dire amen ni rien? Mais quand même, objectivement, pendant des années, moi, à l'église des enfants, à l'école du dimanche, j'ai jamais compris pourquoi le Caïn, alors qu'il avait bossé comme un dingue, il s'est fait rejeter. Hein. Vous ne dites pas amen parce qu'il y en a qui se disent, et moi c'est pareil, d'accord? Mais... Et Abel, il ne sait pas que faire pour Dieu. Alors, au lieu de donner une brebis, il est dit qu'il va donner la première. C'est-à-dire que quand tu es dans la grâce, tu reconnais tellement que l'Éternel est à l'origine de tout ce que tu as, que tu viens vers Dieu en disant, Père Céleste, mon travail m'a donné un revenu. Je suis tellement gêné d'avoir ce travail qui vient de toi. Donc je t'apporte le premier fruit et ça va être la dîme. Lorsque tu dis, l'Éternel, tu m'as donné une famille et cet enfant-là. Donc avant d'aller plus loin dans ma journée, je vais t'apporter une louange pour cet enfant que tu m'as donné. Merci Seigneur, et vous déclinez tous les aspects. Et en fait, vous apportez au Seigneur, un enfant de la grâce, c'est quelqu'un qui met Dieu en premier, parce qu'il reconnaît que de toute façon, la première part appartient à l'Éternel, il n'a rien fait qui mérite. Waouh, ça me donne des frissons. Alors que Caïn lui dit, et Dieu, j'espère que tu apprécies, hein, parce que les légumes là, ça m'a coûté un bras. Hein. Tiens, c'est mon offrande, il y a deux potirons, trois courgettes de navets là. Je te dis pas comment c'était long. Hein. Et là, il se passe un truc incroyable. C'est qu'il est dit, Dieu va regarder Abel et va approuver. Dieu va être touché par la petite brebis d'Abel que Abel n'a même pas créée. Alors que quand Caïn vient avec son offrande, il ressent, il est sûr que Dieu refuse ses poireaux. Non, ça ne veut pas dire que Dieu est carnivore. Ça ne veut pas dire que Dieu est anti-végétarien. Non, 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 non. Ça veut juste dire que Dieu a du mal avec les offrandes que tu fais. Je ne suis pas sûr que ce soit contre cœur, mais que tu fais en disant, t'as vu Seigneur, ce que j'ai fait pour toi. Quand même, je suis tapé 10 ans de célibat hein, pour attendre ta volonté. Hein. Tu vois Seigneur, hein, l'église, hein, quand elle était moribonde et que plus personne n'y allait, ben moi j'y allais, hein. La réunion de prière, hein, toujours présente, Seigneur. J'espère que tu as vu ça. Hein, parce qu'il s'agirait qu'un jour, quand même, j'ai une rémunération pour tout ce que j'ai fait. Hein, parce que vu la sœur Intel, là, qui n'a pas prié et tout ça, et comment elle est bénie, là, moi, je dis, Seigneur, je ne veux pas t'influencer, mais il y a un peu des injustices dans la famille. Hein, parce que l'autre, elle n'a jamais donné sa dîme, elle se pointe, elle a un job de rêve. Alors que moi, j'étais fidèle, je me suis dépouillé dans les moments difficiles. J'ai jamais vu. Et ça va faire exploser Caïn. Il voit le Abel qui a la bénédiction qu'il n'a pas planté, et il se dit, moi j'ai bossé comme un fou furieux, j'ai rien eu. Non mais Dieu là, ça m'énerve. Et en fait, on passe de la cohabitation à la confrontation. Et voici tout d'un coup dans l'église, vous savez que ces deux frères, hein, vous êtes des frères et sœurs hein, mes amis, il n'y a pas d'endroit plus violent qu'une église. Il n'y a pas d'endroit plus violent qu'une famille entre frères et sœurs. Les pires des combats, c'est entre deux personnes très proches. C'est deux personnes très proches. Et Caïn, en fait, la comparaison, c'est au fond de nos tripes et c'est détestable. Je ne sais pas si vous avez cette habitude de regarder ce que les autres ont, mais si vous le faites, vous prenez la voie de Caïn. Si vous invitez vos enfants à le faire, il y a des parents dans la salle. Quand il y a un enfant qui travaille et que tu vas voir l'autre en disant « Si tu bossais comme ta sœur, tu ne serais pas chômeur. » C'est vrai et c'est dangereux ce que vous faites. Parce que vous êtes en train de créer une rivalité entre un Abel et un Caïn. Et vous ne maîtrisez pas les conséquences derrière. la comparaison quand Cain, il dit Dieu s'approcha. Excusez-moi, mais Dieu aime Cain. Et Dieu va faire un entretien en tête à tête privé. Abel n'a pas eu d'entretien en tête à tête avec Cain. Dieu n'est pas venu parler à Abel. Dieu est venu parler à Cain. Parce que je suis sûr que Dieu était très reconnaissant de ce que Cain avait fait. Je ne crois pas du tout que Dieu était fâché contre Cain. Il est même venu lui dire, il dit, Cain, je suis prêt à t'expliquer ce que tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre après tous les efforts que tu as fait, pourquoi j'ai pas accepté. Mais Cain, au lieu d'essayer de dialoguer avec Dieu, il s'est bloqué. Il s'est dit, mais c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Et Dieu lui dit, le péché, il est tapis à ta porte là. Il n'est pas encore là. Tu n'as pas encore péché. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a été fidèle à Dieu depuis des années, Dieu, il est très fier de ce que tu as fait. Relisez la parabole du fils aîné. Le père lui dit, tout ce que j'ai est à toi. Et on est dans le droit d'aînesse. Excusez-moi, mais la part de Cain est plus grande que la part d'Abel. C'est Cain qui va hériter du patrimoine familial. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une bénédiction de Dieu pour celui qui est fidèle. Je voudrais équilibrer le message aussi. À celui qui est fidèle dans les petites choses, et Dieu, au travers des années, a vu tout ton service. Mais si tu bascules dans la revendication, dans la frustration et dans la colère, tu vas devenir un poison après avoir été une bénédiction. Tu vas devenir un poison après avoir été une bénédiction. Il y a des personnes ici qui n'ont pas digéré certaines choses parce que vous avez fait des offrandes et vous ne comprenez pas pourquoi l'Éternel. Peut-être tu as essayé de bien faire les choses. Tu t'es marié avec quelqu'un de chrétien et ton couple a explosé. Et tu dis, Dieu, je me suis fait arnaquer. Refus d'offrande. Et tu es amer. Et tu regardes et pour l'instant c'est chaud. Écoute, ne laisse pas ta colère monter. Elle ne vient pas de Dieu. J'arrive au dernier point, il faut que j'arrête, le temps a passé, mais laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez vu, pendant des années j'ai lu ma Bible, j'ai jamais vu ça. Non, pas sur Cain, Cain se mit une grande colère. Je suis venu pour parler à un Cain ce matin, pour dire que Dieu t'aime, mais que la colère t'est tout près du danger là. L'Éternel dit à Cain, pourquoi te mets-tu en colère? Pourquoi ton visage? Dieu ne veut pas que tu sois triste. Mais Cain dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Cain se jeta sur son frère et le tua. Est-ce que Pascal t'accepte de terminer en m'aidant un petit peu? On va faire une visite au champ. Vous avez compris qu'il est Abel et que je suis Cain. Hein, on va quand même le faire pour de faux. Mais pendant des années... Ça a été rassuré, hein, moi aussi. Hein. Je lui ai dit, je ne vais pas être sous la condamnation comme ça. Juste une chose. Pendant des années, j'ai lu... Vous savez, la Bible, c'est délicieux. Vous lisez le texte 10 fois, vous ne comprenez pas qu'il y a encore un trésor que vous n'avez pas vu. J'ai vu le mot au champ. Vous aviez vu le mot au champ. Il a tué dans les champs. Pourquoi il a tué dans les champs? Parce qu'en fait, Abel, en bleu... Embarquez, on va faire une visite du champ. Il a Cain, Abel, non, Cain, Abel. Je suis trop méchant en fait. Je répète, je suis Cain, il est Abel. Non, dites pas le méchant. Jusque-là, les deux sont gentils. Vous êtes tous les deux un peu de ça. Et je prends Abel, et au lieu d'être là où Dieu me parle, j'amène Abel dans mon champ. Dans mon champ. Parce que Abel, lui, il n'a pas de champ. Mais moi, je sais où j'ai planté ma vigne, que j'ai planté en galérant. Et voilà ce qui va se passer. C'est que ceci est un couteau. Avance, mon cher Abel. Stop. Est-ce que tu réalises que ça, c'est 3 ans de prière? Viens, avance un peu. Ça c'est un dîme, la dîme, alors que franchement, j'avais pas assez pour mes enfants. Et j'ai cru à cette époque-là que ça m'énerve. Allez, avance. Ça, Ça, c'est toutes des années à être seul à manger le yaourt le dimanche soir, alors que ma copine, elle, elle avait un mec qui l'aimait. On avance. Et là, tu vois, ça m'énerve tellement qu'après toutes ces années à l'église, et c'est là qu'il le tue. Merci, Pascal. Ressuscite, s'il te plaît. On peut applaudir, Pascal. Est-ce que vous avez compris que plus vous allez réaliser ce que vous avez fait pour Dieu, plus vous risquez de monter en colère. Quand les résultats, Dieu ne les agrée pas comme vous voudrez qu'il les agrée. Et la grâce, ce jour-là, est assassinée. Et c'est exactement ce qui va se passer à Golgotha. Et je ne sais pas ce qu'a crié Abel, mais le nouvel Abel, Jésus, le Fils de Dieu, il n'a pas envoyé simplement un serviteur, il a envoyé son fils pour chercher ses autres fils. Est-ce que vous réalisez que les pharisiens, ce sont les fils de Dieu ? Non, vous avez du mal à dire amen, mais si les pharisiens sont les fils de Dieu, Christ aussi, et il est venu pour donner sa vie et pour dire aux aînés d'Israël, pour leur dire, Dieu a tant aimé, aïe, 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 les pharisiens, Dieu a tant aimé les Caïn, qu'il a donné son fils. Et en fait, lorsqu'il meurt sur la croix, il crie et dit, Papa, Abba, Père, pardonne-leur, car ils ne réalisent pas ce qu'ils font. C'est énorme. Et c'est pour ça, dans le livre des Hébreux, il nous dit, le cri de Abel est venu jusqu'au ciel. Parce que dans quelques millénaires plus tard, le cri de Christ est allé jusqu'au ciel. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des personnes qui ont de la colère. On va fermer les yeux maintenant. C'est un ex-Caïn qui vous parle. Souvent, mes amis, alors que les yeux sont fermés, je vais vous dire la vérité. Dieu est obligé de casser notre modèle de succès et de réussite pour qu'un Caïn lâche vraiment l'affaire. Peut-être que tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis que ça manque, que ça échoue. Parce que si jamais ça avait réussi, tu en aurais pris la gloire. Oui, mais Dieu, pourquoi tu as permis que ? Parce que si je t'avais donné la bénédiction que tu me redemandais, tu aurais été imbuvable. Imbuvable. Dieu est plus intéressé par ton cœur que par tes actions. Dieu cherche ton cœur. Dieu aime Caïn indépendamment de tout légume qu'il produirait pour lui. Dieu aime Caïn parce qu'il t'a formé avec l'aide de l'Éternel. Il t'a formé. Avant même que tu existes, il avait écrit les jours qu'il avait pour toi. Il savait si tu allais échouer ou pas dans tes études. Il savait ce qui allait se passer par rapport à ton mariage. Il savait ce qui allait se passer par rapport à ton emploi, par rapport à ta santé. Il le savait. Mais au-delà de tout ça, il t'a aimé. Alléluia. Et il a aimé Abel aussi. L'équipe de louange vient sur le devant, garde les yeux fermés un instant. Je voudrais juste dire ceci. Y a-t-il quelqu'un qui ce matin est touché par Dieu, qui veut juste, je ne vais pas vous demander de venir sur le devant, mais peut-être faire juste un signe avec votre main, et les autres gardent les yeux fermés. Seigneur, ma propre justice, je dépose à tes pieds. Seigneur, ce que j'ai pu faire, je ne le revendiquerai pas. Je ne le regretterai pas. Je ne le marchanderai pas. Ce que je t'ai donné, je l'ai donné. Y a-t-il quelqu'un qui ce matin, levant la main, dit « Seigneur, prends tout. Tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Seigneur, je remets ma vie sur l'autel. Je ne mets pas mes légumes seulement sur l'autel, je mets mon cœur sur l'autel. » Merci parce que pour quelqu'un comme moi, il y a eu tellement de pardon. Seigneur, peut-être je t'en ai voulu un moment de ma vie pour les choses qui n'ont pas marché. Mais ce matin, je te demande pardon d'avoir été en colère contre toi. Ah, ça parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, je te demande pardon d'avoir été en colère contre toi. Pardon d'avoir été jaloux de ce que les autres avaient un fruit que j'aurais rêvé d'avoir et que je pensais plus mériter qu'eux. Y a-t-il quelqu'un qui est dans ce cas là ce matin? Lève ta main, Seigneur, pardon d'avoir été si amer dans mon cœur. Alléluia. Saint-Esprit, tu passes dans ce lieu. Je suis un caïn repenti, mes amis. Et je me suis repenti lorsque j'ai pris une grosse claque dans ma vie. Vous pouvez ouvrir les yeux, mais lorsque j'étais aux États-Unis, je suis allé aux États-Unis parce que c'était la dernière étape pour être un parfait caïn évangélique, quoi. Le modèle total. Je suis dans une école biblique au Texas, 1500 élèves, un climat génial. Déjà Nîmes, c'est bien, mais alors le Texas, c'est encore mieux. Et là, je suis célibataire depuis 23 ans. Depuis mes 7 ans, je priais pour rencontrer la femme de ma vie. Je pensais que le dossier était quand même arrivé au ciel et que s'il y avait un ange, il était certainement en traitement quand même le dossier. Et tout d'un coup, j'ai vu une fille qui correspondait bien à ce que je voulais dans le dossier. Et j'étais persuadé que ça venait de Dieu. Et je me suis dit, Seigneur, je te loue de ce que mes légumes aient poussé et que le temps de la récolte arrive. Et en fait, il s'est passé un truc bizarre, mais comme vos vies sont bizarres. J'ai vraiment cru que Dieu, et je ne vais pas vous le faire en entier, c'est trop long ce matin. Mais vous voyez, des fois, il y a des pasteurs qui disent, faites attention aux signes, ce sont des canards. Bon, d'accord. Mais là, je n'ai pas eu un signe, quoi. Vous la connaissez pas, celle-là? Moi, j'étais très signe à l'époque. Hein. Purée. Et j'ai eu des paroles prophétiques, paix dans mon cœur. Enfin, vous savez, moi, j'étais quelqu'un d'assez organisé quand même dans ma tête. Je faisais une checklist de tous les... J'étais déjà pasteur stagiaire. Hein, de pourquoi, comment bien discerner la volonté de Dieu. Et je me suis déclaré comme un héros. Une rose à la main. Après avoir beaucoup prié... Et après avoir une révélation de Dieu, où Dieu, dans l'avion American Airlines, il m'a donné le prénom de la fille sur le cookie. Du genre, j'ai été louer Dieu dans les toilettes pendant 10 minutes, avec le cookie dans la main. La fille, elle s'appelait J-A-N-A, en plus un prénom rare. J'étais là, j'ai dit l'Éternel. L'hôtesse, elle a halluciné. Elle m'a dit, vous êtes le seul qui aimait le cookie, monsieur, ici. Je dis, vous ne pouvez pas comprendre, madame. Et le cookie dans la main et la rose dans l'autre. Je me suis déclaré. Et bon, je n'étais pas non plus naïf. Il y avait deux possibilités, un oui ou un non, quoi. J'étais presque prêt aux deux. J'arrive là-bas et je dis, de toute manière éternelle, avec tout ce que j'ai renoncé là, moi qui voulais me caser tout le temps là, j'arrive en face de cette fille. Et j'ai dit, voilà. En gros, je l'avais vue 15 jours. Hein. Moi, je le fais à l'ancienne. Hein. Je ne la connaissais pas du tout. Je dis, tu vas être ma femme. J'étais un peu direct, d'accord, mais j'avais le cookie. Qu'est-ce que vous voulez? Soit Dieu est dedans, soit Dieu n'est pas dedans. Elle m'a regardé, la pauvre américaine. Et j'ai regardé et je lui ai dit, c'est toi. Et elle a pleuré. Elle s'est mise à pleurer. Mais elle n'a pas pleuré du genre pleurer. Elle a pleuré pendant 8 mois en dépression nerveuse. Non mais ça vous fait rire une dépression nerveuse. Mais vous n'avez pas de cœur à Nîmes. Non mais sincèrement, écoutez bien. Parce qu'il y en a marre des pasteurs qui vous racontent des histoires où ça commence bien, ça finit bien, c'est du Walt Disney. C'est pas du Walt Disney, c'est la vie. Et elle a pleuré pendant 8 mois. Et au bout des 8 mois, elle m'a dit « Je t'aime » et ma réponse est « Non ». Je me croyais dans les feux de l'amour. Mais j'étais dingue. Je suis rentré en France célibataire et choqué. Et choqué. Et j'ai fait mon procès à Dieu, comme peut-être certains sont en train de faire leur procès à Dieu. C'est ça que je voulais aborder ce matin. Vous savez, vous tous les Caïn qui disaient, j'ai quand même mérité un peu de bénédiction. Et je suis rentré et j'ai pleuré tout l'avion du retour. J'arrive, je retourne célibataire chez mes parents, c'était pas le plan initial. Et lorsque je rentre, ma mère elle me dit, c'est pas grave, tu trouveras quelqu'un d'autre. Ça, je dis, mais maman, tu peux pas comprendre. Dieu m'a arnaqué. Non mais c'est vrai, je veux parler vrai ce matin. Pour certains, vous avez l'impression que Dieu vous a arnaqué. Et avec beaucoup, Dieu m'a donné une femme formidable après, qui est de Valence, une femme vraiment merveilleuse. Mais le temps, c'est compliqué. Et je pleure pas pour cette fille, je ne la connaissais pas. Mais je pleure pour ce que ça a eu comme impact dans ma vie spirituelle. Que pendant des mois, j'étais plus capable d'entendre la voix de Dieu. Que à chaque fois qu'il fallait apporter à Dieu quelque chose, ça me coûtait mes tripes. Parce que j'étais dans un système où lorsque tu fais, tu reçois. Et Dieu m'a dit, tu vas faire tout bien et tu vas rien recevoir. Mais est-ce que tu m'aimes vraiment? On se lève ensemble? Moi, je voudrais qu'il y ait de la maturité dans cette église. Que vous aimiez pas Dieu par intérêt. Que vous accrochiez à Dieu quoi qu'il en soit. Amen. Moi, je ne sais pas quel chant t'as prévu, mais il faut y aller là.